aujourd'hui continuer notre étude par le culte de l'Église. La dernière fois, nous avons vu la Sainte Cène, qui est déjà un des éléments essentiels du culte, mais nous allons prolonger un petit peu cette pensée. Dans le Nouveau Testament, il est clair qu'il existe deux types de réunions. Premièrement, les réunions publiques. Elles sont citées à de nombreuses reprises. D'abord dans les synagogues, dans le temple, puis dans des lieux spécialement réservés à cet effet, et qui comprenaient donc des cantiques. Des cantiques de deux types. Des cantiques qui étaient des psaumes, cela est cité à plusieurs reprises. Entretenez-vous par des psaumes, n'est-ce pas, des cantiques et des psaumes, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens et dans d'autres épîtres du même ordre. Donc des cantiques, des psaumes qui devaient être certainement repris de la synagogue, repris du judaïsme. Il semble bien, n'est-ce pas, que le culte de l'Église suivait grosso modo, n'est-ce pas, le modèle synagogal, c'est-à-dire justement psaume, cantique. Et par cantique, il faut comprendre vraisemblablement hymne qui était certainement davantage, qui avait une coloration chrétienne peut-être plus forte. Ainsi, par exemple, certains exégètes ont cru pouvoir retrouver la trace de certains de ces cantiques dans, par exemple, Philippiens 2, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, le Messie qui existait en forme de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est humilié jusqu'à la mort, se rendant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est dessus tout nom. Il n'est pas impossible, il y a même de fortes chances pour que ce texte-là ait été chanté. Nous avons là une forme de versification de type hébraïque qui laisse entendre que c'était, ici, Paul cite, n'est-ce pas, un hymne, un cantique qui était connu de ses lecteurs et qui était chanté par eux. On trouve, bien sûr, dans le livre d'Apocalypse aussi, nombre de cantiques du même ordre. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux types de cantiques qui sont évoqués, le cantique de Moïse, hein, il chante le cantique de Moïse, serviteur de l'Éternel. Puis ensuite, le cantique de l'agneau, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 5. Il est question du cantique de l'agneau, qui semble, lui, être un cantique beaucoup plus de type chrétien, n'est-ce pas? Bon, un certain nombre de doxologies, comme celle que nous chantons d'ailleurs nous-mêmes, n'est-ce pas, à celui qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, semble aussi bien avoir été un hymne, hein. Autre exemple, dans l'Épître à Timothée, le mystère de la piété est grand, celui qui a été exalté devant le trône de Dieu, devant les anges, etc. Bon, semble que ça soit là aussi une citation d'un cantique, d'un hymne qui était chanté donc dans les cultes de l'Église. Bien entendu, il y avait ensuite la lecture de la Torah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, pour une raison plus bien simple, n'est-ce pas ? C'est qu'à l'époque, il n'existait rien d'autre au point de vue d'écriture. Quand le Nouveau Testament cite les Écritures, hein, par exemple, quand Paul dit à Timothée « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour… » etc. Il entend exclusivement par là, bien sûr, l'Ancien Testament, dans la mesure où le Nouveau Testament n'existait pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que le commentaire de la lecture qui était faite n'avait pas une dimension christologique et chrétienne, au contraire. Quand nous voyons, par exemple, le commentaire qui nous sont rapportés dans le livre des Actes, nous voyons précisément que les apôtres partent toujours d'un texte de l'Ancien Testament pour expliquer comment, en quelque sorte, Jésus a accompli ce qui était écrit. Par exemple, acte 2, le jour de la Pentecôte. Ceci, c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël. Et la prophétie citée, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein. » Et ensuite, le discours de Pierre est une explication de ce verset. ce Jésus, n'est-ce pas, c'est lui qui a répandu l'Esprit, comme vous le voyez, l'entendez, et qui est ce Jésus. Et Pierre l'explique avec force citation de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 16, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ou bien, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, voie la corruption. » C'est ça le psaume 16, l'autre c'est le psaume 110. Hein. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Explication donc de Pierre. Ça ne pouvait pas s'appliquer à Moïse, puisque à David, puisque David est mort, et que son tombeau existe encore parmi nous. Ça veut dire que du temps de Pierre, on pouvait encore le voir, ce tombeau-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il a vu la corruption. Donc, il ne parle pas de lui-même, il parle d'un autre. De qui parle-t-il? Ça ne peut être que de celui, justement, qui n'a pas vu la corruption, comme nous en sommes témoins, Jésus. Nous avons plusieurs exemples de discours de Paul dans les synagogues, par exemple dans Acte 13. Paul est invité donc à faire la lecture de la synagogue et à donner le drache, c'est-à-dire l'explication de la paracha de la semaine. Et Paul donc explique comment Jésus accomplit les Écritures. Nous retrouvons ça dans différents textes des Actes où Paul aussi donc intervient dans les synagogues. Maintenant, il y a un autre exemple tout à fait intéressant, c'est celui de Paul à Lystre, quand il arrive dans un village, une ville plutôt de païens, qui veulent, vous vous souvenez du récit, n'est-ce pas, après ça, la guérison du paralytique, ils croient que c'est les dieux grecs, Zeus et Hermès, et ils veulent donc offrir un sacrifice. Et Paul, donc, va leur prêcher l'Évangile. Or, justement, Paul s'y prend, en ce qui les concerne, d'une manière très différente de ce qu'il faisait avec les Juifs. Avec les Juifs, il part, donc, d'un texte de l'Ancien Testament, mais bien entendu, les païens ne connaissent pas l'Ancien Testament. Alors, il part tout simplement de ce qu'était finalement l'apologétique juive traditionnelle de son temps vis-à-vis des païens. À l'époque du Nouveau Testament, il y avait en effet un élan missionnaire très important juif, n'est-ce pas, vis-à-vis des païens. Et le but premier, n'est-ce pas, de cette évangélisation juive était d'amener les païens à se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Comme Paul le rappelle aux Thessaloniciens, on raconte de vous, leur déclare-t-il, comment vous vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. Aux Corinthiens, il déclare, n'est-ce pas, qu'autrefois ils adoraient des idoles muettes, mais que là aussi, ils se sont détournés de ces choses pour maintenant connaître et adorer le Dieu vivant. Donc, Paul commence aux païens de Lystre à démontrer la vanité des idoles. Nous sommes des hommes comme vous, première chose. Donc, il n'est pas question que nous acceptions le sacrifice que vous voulez nous offrir. Deuxièmement, le cycle de la nature, n'est-ce pas, nous parle de l'existence d'un Dieu unique, universel. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'il reprend en Romains aussi, dans le premier chapitre, n'est-ce pas. Les perfections de Dieu se voient à l'œil nu, et les païens sont inexcusables. Parce qu'ils auraient dû faire comme Abraham, n'est-ce pas, en regardant la nature, arriver à la conclusion qu'il y avait, n'est-ce pas, un être infiniment sage et tout-puissant qui avait créé ces choses. Mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible par l'image, n'est-ce pas, de créatures corruptibles. Et donc, ils se sont égarés dans leurs pensées, l'idolâtrie, jointe à toute espèce d'impureté, et notamment culminant, n'est-ce pas, par l'homosexualité. Alors, Paul reprend ce même schéma, n'est-ce pas, pratiquement partout où il passe, donc à Thessalonique, nous l'avons vu, à Corinthe, à Lystre, aux Romains. Et puis, il y a aussi le fameux discours aux Athéniens, où Paul change un peu ici sa manière de faire parce qu'il a affaire cette fois-ci à des hommes lettrés, à des philosophes. Et Paul les prend là où ils sont. Il cite leurs poètes. Il cite les éléments de leur dévotion qu'il a remarqués, et notamment le fait qu'il avait découvert un autel à un dieu inconnu. Et Paul parle de ce dieu. Finalement, c'est la même démarche qu'à Lystre. Les gens de Lystre sont des gens simples, les gens d'Athènes sont des gens intelligents, mais finalement, il reprend la même démonstration. Dieu a voulu que les hommes, sortis d'un seul sang, dispersés sur toute la surface de la terre, s'efforcent de le chercher en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun d'entre eux. N'est-ce pas ? Il a fixé les temps de leur vie, les bornes de leur demeure, lui qui donne à tous la respiration, parce qu'en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Comme l'ont dit vos poètes, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par là ou l'industrie de l'homme. C'est exactement ce qu'il disait à Lystre, d'une manière beaucoup plus populaire, si l'on peut dire. Et puis, quand il a donc amené ses auditeurs à la foi au Dieu unique, donc qui est une démarche tout à fait juive, alors il leur annonce Jésus-Christ. Ça veut dire, quand il les a amenés là où sont les juifs, eh bien, il reprend ce qui est sa prédication auprès des juifs. Dieu annonce à tous les hommes maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour par lequel il jugera le monde, par l'homme qu'il a choisi pour ce faire, Jésus-Christ, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Et Paul résume sa prédication dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous prêchons Christ et Christ crucifié ». Scandale pour les uns, folie pour les autres, mais sagesse et puissance de Dieu. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'étudier ces premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens, où Paul explique comment il s'est efforcé de prêcher aux uns comme aux autres. Il dit « sans la sagesse du langage ». Qu'est-ce à dire ? Il dit « je n'ai voulu savoir rien d'autre » que donc Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul veut dire ceci, qu'il a mis la barre haut et qu'il était bien conscient que l'Évangile était une folie pour les Juifs, pour les Grecs, et un scandale pour les Juifs. Mais devant les Juifs, il n'a pas cherché à atténuer le caractère scandaleux du Messie crucifié. Et devant les Grecs, comme le fameux discours à Corinthe le montre, à Athènes le montre, il n'a pas cherché à atténuer le caractère de folie de l'Évangile pour les Grecs. Caractère, n'est-ce pas, qui s'exprime par les moqueries, n'est-ce pas, des Athéniens. Ils l'écoutèrent jusqu'au moment où il se mit à parler de résurrection, et là, les uns se moquèrent, les autres dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Donc, Paul était bien conscient de ce qu'il y avait de rugueux, de ce qu'il y avait d'abrupt, de ce qu'il y avait, comment pourrait-on dire, de rébarbatif pour les uns comme pour les autres. Mais Paul n'a pas cherché en aucune manière à réduire si peu que ce soit ce caractère rugueux de son évangile. Et ceci, même pas dans la forme, même pas dans la présentation. Au point que l'on disait de lui à Corinthe qu'il manquait d'éloquence. Que dans son apparence, dans son langage, il était faible. Paul explique que c'est un choix. Qu'il aurait pu, lui aussi, n'était pas plus bête qu'un autre, qu'il aurait pu aussi employer la rhétorique, très développée chez les Romains, qu'il aurait pu, lui aussi, utiliser la sagesse du langage, qu'il aurait pu lui aussi impressionner son monde par des discours ronflants et rouler les épaules pour montrer qu'il était fort, qu'il aurait même pu, et il en aurait eu le droit, ça aurait été légitime, de faire état de signes, de visions, de révélations extraordinaires qu'il aurait reçues de Dieu. Mais Paul dit que volontairement, il n'a pas voulu ces choses. Afin, dit-il, que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, et qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois que là, ça c'est fondamental, surtout dans le contexte de notre monde moderne, où de plus en plus l'Église de Jésus-Christ est amenée à abandonner ses principes qui étaient ceux de Paul. Parce que si du temps de Paul, l'Évangile était une folie, pour les Grecs de son temps, à combien plus forte raison ne l'est-il pas pour l'homme moderne ? L'Évangile est une folie. Au XXe siècle, à l'âge des ordinateurs et de tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, parler encore de l'Évangile, de la Bible, etc., c'est une folie. Alors, parce que c'est une folie, on essaie de rendre sage l'Évangile. Sage par le rock, par le théâtre, par tout un habillage, n'est-ce pas, dont on enveloppe l'Évangile pour le rendre plus accessible à l'homme. La sagesse de l'homme. Et l'on cherche des moyens de la sagesse humaine pour faire passer l'Évangile, pour communiquer l'Évangile. C'est le grand problème, n'est-ce pas, de l'évangélisation dans les églises évangéliques en cette fin du XXe siècle, communiquer l'Évangile. Et il y a des séminaires, des rencontres, des études très savantes, n'est-ce pas, pour savoir comment communiquer l'Évangile. Or, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans le Nouveau Testament, nulle part, il y a d'études qui est faite sur la manière de communiquer l'Évangile. Nulle part. Nulle part, il ne nous est dit, n'est-ce pas, que nous devions apprendre l'art de la communication pour pouvoir communiquer l'Évangile. Il nous est dit simplement, prêche l'Évangile. En toute occasion, favorable ou non. C'est tout. Prêche l'Évangile. Dans tout son caractère rugueux, dans tout son caractère inacceptable pour l'homme de tous les temps, et plus particulièrement pour l'homme de la fin du XXe siècle. Parce que le résultat de l'Évangile ne dépend pas de toi. Toi, tu sèmes. Et c'est Dieu qui fait croître. Dieu lui-même, selon son bon plaisir et selon le fait qu'il y a des cœurs ouverts ou non, va faire de cet évangile qui est une folie pour l'homme naturel, va faire en sorte que la vérité de cet évangile soit confirmée par une démonstration d'esprit et de puissance qui vient de Dieu et qui ne vient pas de l'homme. Et alors, bien entendu, en agissant de cette manière, déclare Paul, il est bien évident qu'il y a un grand déchet qui se produit. Il est bien évident que ceux qui vont être au bénéfice de cette démonstration de l'esprit et de la puissance seront certainement moins nombreux que si l'on avait employé les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et c'est bien ce qu'on reprochait à l'apôtre Paul. Comme aujourd'hui, on le lui reprocherait. Comme aujourd'hui, les tenants du spectacle chrétien, n'est-ce pas, du show business chrétien, le lui reprocheraient. Seulement, dit Paul, en quelque sorte, c'est moi qui transcris sa pensée, mais c'est ce qu'il veut dire, moi, je préfère un plus petit nombre de gens, mais de gens qui ont fait une expérience réelle et profonde avec Dieu. De gens qui vont donc être profondément enracinés dans les choses de Dieu, qu'un plus grand nombre de gens qui auront été persuadés simplement par l'homme, par le talent du prédicateur, par éventuellement, on dirait aujourd'hui, des moyens psychologiques, un conditionnement psychologique, et qui une fois, n'est-ce pas, l'émotion produite par ce conditionnement psychologique dissipé, eh bien, seront des gens, comme parle la parabole du semeur, qui reçoivent la parole avec joie, mais qui sont comme le grain qui est tombé dans un terrain pierreux, qui n'a pas de racine et qui sèche dès que le soleil se lève. C'est le choix, dit Paul. Ou bien alors, on vise le plus grand nombre, mais alors on aura des églises qui seront tout à fait superficielles, avec des gens qui ne tiendront pas dans les tempêtes, ou bien on vise un travail en profondeur, en sachant que ce faisant, on aura automatiquement un nombre plus restreint de gens, mais de gens qui ont été au bénéfice d'une expérience profonde avec le Seigneur, des gens qui ont été au bénéfice d'une action profonde du Saint-Esprit, qui ne dépend pas de nous. Et à la limite, bien entendu, ça c'est un petit peu extrémiste ce que je veux dire, mais à la limite, Paul prêche un évangile volontairement choquant. Ça. De façon à ce que précisément, eh bien, ceux qui ne sont pas destinés à croire, ils trouvent une pierre d'achoppement. Et ainsi le tri se fait. Alors, bien entendu, déjà du temps de Paul, on disait Paul, ça c'est pas une méthode valable. Pas une méthode valable parce que tu élimines un certain nombre de gens qui, etc., regardent ici, n'est-ce pas, dans l'église de Corinthe, il y a ceux d'Apollos, il y a ceux de Christ, il y a toutes sortes de gens. Puis il y a ceux de Paul. Ceux de Paul, ils sont moins nombreux. Et bien évident qu'aujourd'hui, si Paul revenait et parlait de cette manière-là, alors là, on lui dirait, mon pauvre Paul, tu retardes de 2000 ans. Hein. Tu sais, nous, aujourd'hui, on en est aux moyens de communication de masse, on en est aux croisades de masse, n'est-ce pas, où des milliers de personnes, des 10 milliers de personnes, et nous, ici à Séoul, n'est-ce pas, nous avons 100 000 personnes. Alors, évidemment, on pourrait répondre, et Paul pourrait répondre comme faisait Donald G., je voudrais bien que tout cela soit vrai. Seulement, comme Paul n'était pas naïf, il savait bien que derrière tout ce qu'on disait être l'action de Dieu, eh bien, il y avait beaucoup de paille, il y avait beaucoup de chaume, il y avait beaucoup de réalité qui venait de l'homme. Et c'est pourquoi Paul dit, moi, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Je n'ai pas cherché à plaire aux hommes. Il le redira aux Galates, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il a été volontairement abrupt dans sa méthode d'évangélisation, en disant, si c'est de Dieu, si quelqu'un a faim et soif de Dieu, il reconnaîtra la voix de Dieu, il reconnaîtra la voix du bon berger, et Dieu fera son œuvre dans son cœur. Et finalement, cela ne dépend pas de moi. Si vraiment cette parole est parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur va la confirmer dans les cœurs sincères. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de, comment dirais-je, prendre de multiples précautions. Regardez par exemple la prédication de Jonas à Ninive. Jonas n'a pas pris des gants, hein. Il n'a pas été éloquent. Il a simplement dit, encore 40 jours, Ninive est détruite. Et le Seigneur agit dans le cœur. Il y a eu une démonstration d'esprit de puissance. Et puis les Ninivites se sont convertis. C'est exactement la même chose. Alors ceci dit, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit balancer l'évangile à la tête des gens, si j'ose dire, sans aucune précaution. Et nous voyons comment justement Paul s'y prenait. Nous avons dit tout à l'heure qu'il ne parlait pas aux Juifs comme il parlait avec les Grecs, qu'il ne parlait pas avec les philosophes d'Athènes comme il parlait avec les païens superstitieux de Lystre. dans la forme. Mais dans le fond, c'était la même chose. Alors, il essayait de se faire tout à tous, de se mettre à la portée de chacun de ses auditeurs, mais ce tout à tous ne l'amenait pas à chercher à employer des moyens humains, à chercher, comment dirais-je, à attenter à la liberté de l'homme, à la liberté de l'auditeur, par des pressions, quelles qu'elles soient. Et ces pressions, ça peut être, de son temps, les discours persuasifs de la sagesse, donc la rhétorique. Aujourd'hui, on dirait les trucs publicitaires, les techniques de vente, on vend tout aujourd'hui. Ouais. Moi, j'étais étonné il y a bien des années, quand un jour, étant dans une rencontre avec, faisant un exposé sur Israël, dans le cadre de l'Office du tourisme israélien, on m'avait demandé de faire une conférence à Rennes sur Israël pour des, comment on appelle ça, des responsables d'agences de voyage. Et avant que je n'intervienne, il y avait le responsable du tourisme israélien qui était là, qui donc a fait aussi un petit exposé, alors très technique, très professionnel, n'est-ce pas, en disant, eh bien, ce qui m'avait frappé, c'était cette expression, bon, ben, je vais vous expliquer, a-t-il commencé, comment vous devez vendre Israël. Alors, cette expression m'a déjà choqué, on vend Israël. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre en Israël? Eh bien, vous avez à vendre le soleil, vous avez à vendre les sites archéologiques, vous avez à vendre les lieux saints, n'est-ce pas? Je veux dire par là, et il expliquait, n'est-ce pas, comment faire la promotion, comment faire la publicité pour inciter les gens à n'est-ce pas, à aller visiter Israël parce qu'en Israël, il y avait du soleil, parce qu'en Israël, il y avait des lieux saints, parce qu'en Israël, il y avait des sites archéologiques, etc., etc. Donc, il leur enseigne des trucs publicitaires. Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis effaré de voir comment, n'est-ce pas, dans l'évangélisation, il y a une multitude de trucs qui courent. Ça va depuis, si vous voulez, le tract, hein, le tract publicitaire, et je me souviens de ce que racontait Yvon Charles, comment, dans une certaine convention des Assemblées de Dieu à laquelle il avait participé, il avait été choqué, scandalisé de voir des pasteurs discutaient entre eux, n'est-ce pas, des valeurs respectives, des mérites respectifs d'un certain nombre de tracts. Ah, ce tract-là, non, il ne marche pas. Ah non, celui-là, on l'a éliminé parce qu'il ne marche pas. Par contre, celui-là, oui, oh, celui-là, moyen. Par contre, celui-là, eh bien, hein. Alors là, ça marche. Hein. Celui-là, on peut y aller, n'est-ce pas? Alors, finalement, on était arrivé à se demander, mais sur quoi compte-t-il? Sur la puissance de Dieu, sur la démonstration d'esprit de puissance, ou sur l'habileté, n'est-ce pas, de celui qui a écrit le tract pour toucher, n'est-ce pas, l'homme, donc comme ferait un démarcheur de commerce, quoi. Exactement la même chose. Hein. Les publicistes, bon, ils jouent sur les couleurs, sur le dessin, sur la présentation, sur la grandeur des titres, sur les formules, sur les etc. Sur les photos, il y a tout ça. Alors, bien entendu, je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, qu'on va faire un tract, si on fait un tract pour l'évangélisation, on va le faire serrer, tasser de telle manière que les gens ne vont pas avoir envie de le lire. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Mais entre les deux extrêmes, n'est-ce pas, et ensuite de dire, bien, on compte sur, n'est-ce pas, l'impact de ce tract-là pour amener la personne à la réunion, puis ensuite, n'est-ce pas, alors d'autres disaient, ah ben, ce que moi je fais quand je prêche l'évangile, hein, eh bien, je commence pendant 3 jours, par exemple, on fait 6 jours de mission, hein, une semaine de mission, les 3 premiers jours, je ne prêche que la guérison divine. Et puis, quand les gens sont bien, en quelque sorte, amorcés par la guérison divine, ben, je prêche le salut. Vous avez vu ça, l'évangile? C'est un truc. Les grands évangélistes américains ont une technique abominable, ils appellent ça, ça vous montre le niveau, ils appellent ça les boucs de Judas. Les boucs de Judas, alors vous en avez deux types. Vous avez ceux qui sont donc dans des réunions non charismatiques. Alors vous savez, par exemple, les grandes croisades, là où il y a des milliers de personnes, avec un évangéliste vedette. Et puis donc, le message de l'évangéliste se termine par un appel, ceux qui veulent se donner au Seigneur, levez-vous et approchez-vous ici sur le devant de l'estrade, comme signe que vous donnez votre vie au Seigneur. Alors là, il y a les boucs de Judas qui interviennent, c'est vous avez des gens qui sont désignés d'avance, et qui sont les premiers à se lever pour amorcer la pompe. Parce qu'on a remarqué, par exemple, tous les camelots connaissent ça, ils ont leur bouc de Judas aussi, tous les camelots. Hein, celui qui vend, n'est-ce pas, le produit miracle qui va faire repousser les cheveux des gogos, hein, eh bien, qui d'entre vous, n'est-ce pas, ici, va être le premier à acheter le produit miracle? Vous savez, c'est le principe du mouton de Panurge. Si personne ne bouge, personne ne bougera. Mais qu'il y ait un audacieux qui se présente, qui achète le produit miracle, ben, les autres vont dire « Ah ben, moi aussi, puis voilà, ça y est, c'est parti. » Alors, le tout camelot qui se respecte, il a un complice dans la foule qui est là, n'est-ce pas, et qui au moment de il a terminé son boniment et vient le moment de passer à la vente, il est le premier à se précipiter à acheter le produit miracle. Et puis alors, bien entendu, tout le monde suit. Bon, ben, les boucs de Judas, c'est pareil. Vous avez même des choses encore pires, je dis ça non pas, n'est-ce pas, mais vous avez par exemple, parfois, et c'est abominable, hein, dans certaines réunions de guérison, des faux paralytiques ou des faux malades qui viennent comme ça, et puis comme ça, ça provoque la foi chez les autres. Ça provoque la foi chez les autres, puis là, après, on a des authentiques guérisons. On va jusque-là. Bon, alors ça, ce sont des principes, bien entendu, que Paul aurait condamnés. Ça, il n'y a aucun doute. D'abord, parce que ce n'est pas droit, ce n'est pas honnête, première chose. Et puis, deuxièmement, parce que c'est faire pression sur l'homme, c'est faire pression sur sa volonté. Alors, que la prédication de l'Évangile soit pressante, oui, nous voyons les apôtres les presser en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Mais pas par un conditionnement, pas par des trucs publicitaires, pas par des, comment dirais-je, tout un ensemble de pressions psychologiques ou commerciales ou techniques. Vous savez, les commerçants aujourd'hui sont allés jusqu'à mesurer le nombre de clignements d'yeux, de battements de cils des clients potentiels qui entrent dans les grandes surfaces, et pour mieux savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui les intéressait le plus, s'ils étaient fatigués au début de leur visite ou bien plus intéressés au milieu ou à la fin de leur visite, quel était le temps moyen qui restait. Et en fonction de ça, bien, donc ils placent les objets sur les rayons à telle hauteur, de telle et telle disposition, n'est-ce pas, les produits de première nécessité, on les met au fond du magasin parce que de toute façon, on sait que les gens vont les acheter. Alors on met ensuite sur le parcours qu'ils vont suivre, n'est-ce pas, tout un ensemble de gadgets dont ils n'ont pas besoin, mais qui va soudain les inciter à acheter. Quand ils sont aux caisses, on a calculé qu'il ne faut pas que ça dure moins de temps, de par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, que ça dure moins d'une minute, mais ça, il ne faut pas que ce soit plus de 3 minutes, sinon le client s'impatiente. Donc, mais pas moins d'une minute non plus, parce que pendant la minute qu'il est là, il y a des petits présentoirs devant la caisse où il y a des chocolats, des trucs, des machins, n'est-ce pas, des gadgets divers. Et pendant qu'il est là en train d'attendre son tour, n'est-ce pas, pour passer aux caisses, il dit tiens, je n'avais pas vu ça, je le prends, je le mets dans mon panier, on vend toutes sortes de trucs comme ça, en plus, quoi. Alors, c'est des trucs. Hein. Bon, bien, dans la prédication de l'Évangile, aujourd'hui, on arrive aussi à des trucs du même ordre. Eh bien, ça, Paul rejetait. Rejetait, un, parce que c'est contraire à l'esprit de l'Évangile, c'est contraire à la droiture et à la vérité, et puis, n'est-ce pas, c'est une atteinte à la liberté de l'homme. Je suis conditionné, hein, et c'est pourquoi, justement, l'évangile véritable est le contraire même de la secte. La secte qui, justement, est conditionnement. Mais l'évangile véritable n'est pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les églises qui se réclament de l'évangile véritable ne tombent pas quelquefois dans des procédés de secte. Il est évident que ceux qui emploient de telles techniques, hein, eh bien, c'est vrai... Si ensuite ils se font tabler de secte, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer. Hein? Parce que ce sont de tels procédés. Mais le Seigneur respecte la liberté de l'homme. Hein? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux qui ont servi vos pères, ou bien l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Josué fait un long discours pour expliquer pourquoi il vaudrait mieux servir l'Éternel que pas le servir. Mais quand il a terminé, maintenant vous choisissez. C'est votre problème. Moi, j'ai choisi. Vous faites ce que vous voulez. Hein? Alors, ça, c'était la manière d'évangéliser de l'Église primitive. Et c'est la seule manière qui vaille encore aujourd'hui. et je dirais plus que jamais aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre. Et ça vaut pour le témoignage personnel, ça vaut pour la prédication de ce que nous appelons les réunions d'évangélisation, c'est-à-dire ce que le Nouveau Testament appelle les réunions publiques. Hein. Et puis, bien entendu, dans ces réunions publiques aussi, il y avait des temps de prière. Hein. Saffiné avait déjà noté qu'on ne doit pas hésiter à prier dans des réunions d'évangélisation. Souvent, la prière impressionne le pécheur beaucoup plus que toute autre chose, et on l'a souvent constaté d'ailleurs nous-mêmes au milieu de nous. Hein. Alors, la prière était de sorte, il y avait la prière, comment dirais-je, liturgique, j'aime pas le mot, mais enfin, disons, la prière à la manière juive, hein. Les psaumes, par exemple, chantés ou non. Et puis, il y avait les prières spontanées, prière par l'esprit. Il pouvait même y avoir, nous dit l'apôtre Paul, dans les réunions publiques, des prophéties, si elles étaient véritablement de Dieu. Et si dans votre assemblée, dit l'apôtre Paul, tout le monde prophétise, et que vienne quelque homme du peuple ou quelqu'un croyant, les pensées de son cœur sont dévoilées, sont mises à nu devant tous, et tombant sur sa face, il confessera que le Seigneur est véritablement au milieu de vous. Puis très vite, dans l'Église primitive, on s'est mis à lire les lettres des apôtres. Nous voyons cela, par exemple, Paul qui dit à l'Église de Colosse, « Quand cette lettre aura été lue au milieu de vous, faites en sorte, n'est-ce pas, qu'elle soit lue aussi dans l'Église de Laodicée, et que l'épître, la lettre que j'ai adressée à l'église de Laodicée, soit lue au milieu de vous. » Et les lettres des apôtres ont commencé à circuler dans les églises et à être lues à égalité, si j'ose dire, de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'est né le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est né d'abord par les lettres des apôtres. Et puis, donc il y avait ensuite l'enseignement des apôtres, ils persévéraient, nous dit le livre des Actes, dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières. Et l'enseignement des apôtres, c'était l'évangile, mais l'évangile qui n'était pas écrit encore à cette époque-là. L'évangile qui était donc transmis, car je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, n'est-ce pas ? C'est que Christ est mort et ressuscité selon les Écritures, dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Hein? Donc, le centre de l'Évangile, c'était ça. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Alors, on racontait, n'est-ce pas, les grands faits du salut, de l'œuvre de Jésus, les principaux points de l'enseignement de Jésus, et puis cela ensuite a pris une forme orale qui explique les différences, n'est-ce pas, entre les différents évangiles synoptiques. Et puis ensuite, on les a mis par écrit quand les apôtres ont commencé à disparaître, parce que justement, l'enseignement des apôtres risquait ainsi de se diluer. Et ça a donné nos évangiles. Et on a pris donc l'habitude, dès le IIe siècle, après la lecture de la Torah, comme dans la synagogue, d'ajouter la lecture, n'est-ce pas, des Écritures nouvelles, si j'ose dire, qu'étaient les Épîtres et les Évangiles. Et c'est ainsi, petit à petit, s'est constitué notre Nouveau Testament. Il y avait, bien entendu, comme le montre le livre des Actes, des manifestations charismatiques au sein des réunions. Langues, interprétation des langues, prophéties, paroles de sagesse, manifestations diverses de miracles, guérisons, révélations de choses cachées, paroles de connaissance. Nous voyons Paul, par exemple, s'interrompre au milieu d'une réunion. Ou Pierre, exactement, à Lod, n'est-ce pas, à Lydda, et là, il ressuscite Aîné, il guérit Aîné, le paralytique, n'est-ce pas? Parce que soudain, au milieu de la réunion, il discerne que cet homme a la foi pour être guéri. Alors il interrompt sa prédication, il se tourne vers lui, il dit, Aîné, Seigneur Jésus te guérit, lève-toi. Bon, il y a des cas semblables, n'est-ce pas, dans le livre des Actes en ce qui concerne Paul. Quant à Chypre, n'est-ce pas, le magicien Elimas interrompt sa prédication constamment. Paul se tourne vers lui et lui dit, homme animé par l'esprit de Satan, toute espèce de ruse, n'est-ce pas, jusqu'à quand continueras-tu à t'opposer à l'esprit du Dieu vivant? Bien maintenant tu seras aveugle. Et cet homme est immédiatement frappé de cécité. Donc, des signes, des prodiges, ou bien le cas de ce qui se passe dans ce discours d'adieu de Paul à Milet, quand ce malheureux jeune homme, n'est-ce pas, appuyé sur la fenêtre, tombe et puis se tue. Et Paul descend, le ressuscite. Il y avait des manifestations miraculeuses qui avaient cours, n'est-ce pas, dans le cours normal du culte. Et puis, il y avait ensuite les réunions privées. Et les réunions privées, comme par exemple en acte 2, verset 22, tournaient essentiellement autour de la fraction du pain. La fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, dans l'Église primitive, n'était pas une réunion publique. Ils prenaient le repas dans les maisons. C'était quelque chose de privé. Par exemple, dans la chambre haute, ou plus exactement le lieu de culte des premiers chrétiens qu'on a retrouvé à Jérusalem, au Mont Sion, jusqu'à aujourd'hui, on voit nettement deux parties. Il y avait la partie basse du lieu de culte, qui est une synagogue, qui est exactement à disposition d'une synagogue de l'époque, c'est-à-dire non pas avec les chaises en randonnion, mais les chaises, plutôt les bancs, des bancs le long des murs. On était assis en cercle. Puisque aujourd'hui dans les synagogues orientales. Donc ça c'était pour la prière, pour la réunion publique. Et au-dessus il y avait la chambre haute, qui était réservée uniquement aux frères, à la communauté des croyants baptisés, où l'on rompait le pain. Au cours des repas d'ailleurs, un repas complet, pas simplement un repas symbolique comme celui que nous faisons. Et on voit ça dans le livre des Actes, dans la première épître aux Corinthiens. Paul montre que ça avait tellement dégénéré, cette fraction du pain, qu'il y en avait qui s'empiffraient et d'autres qui mangeaient du pain sec et de l'eau, n'est-ce pas, pendant que les autres, sinon seulement, tout le monde ne buvait pas de l'eau dans ces occasions-là. Il y en avait qui buvaient du vin tellement, d'ailleurs, qu'ils ne savaient plus tellement à la fin où ils en étaient, les pauvres. Bon, alors Paul dit, attention, un peu d'ordre là-dedans, quoi. Bon. Donc c'était comme ça. Et alors, cette pratique de l'Église primitive du 1er siècle, n'est-ce pas, se retrouve au 2e siècle au moins, éventuellement jusqu'à l'époque de Constantin en gros, où le culte, jusqu'à après l'époque de Constantin d'ailleurs, n'est-ce pas, le culte de l'Église primitive avait lieu en deux temps. Donc ça, dans l'Église primitive, après le 1er siècle, hein. C'est-à-dire qu'au 1er siècle, il y avait deux types de réunions distinctes. Il y avait la réunion publique, qui était comme une réunion dans la synagogue, c'est-à-dire chant, prière, lecture de la Bible, prédication, éventuellement charisme, miracle, etc. Hein? Mais pas de Sainte-Cène. Et puis, en un autre temps, et éventuellement en un autre lieu, c'est pas, la fraction du pain pour les seuls membres de l'Église. À partir du 2e siècle, on rassemble les deux choses. Et jusqu'après Constantin, n'est-ce pas, le culte de la communauté chrétienne a lieu en deux temps. Une première partie qui est publique et qui comprend justement ces mêmes éléments, chant, prière, prédication, lecture de la Bible et prédication. Et quand c'est terminé, ceux qui ne sont pas baptisés, les enfants, etc., sont invités à sortir. Et les portes sont fermées. Et le repas du Seigneur est pris alors à huis clos, si j'ose dire. Alors, bon, il y avait là aussi des considérations qui touchaient un petit peu au problème des persécutions. Hein. Mais c'était vraisemblablement un souvenir, n'est-ce pas, de cette distinction qui était faite par l'Église primitive entre ces deux types de réunions, la réunion publique et la réunion privée. Bon, ensuite, il y a eu une autre évolution, une troisième évolution dans l'histoire de l'Église, où le culte est devenu la messe, c'est-à-dire que ce qui était central, c'était justement la fraction du pain, mais la fraction du pain à laquelle on donnait une autre signification, c'est-à-dire le renouvellement du sacrifice de Jésus, et qui était alors là public. Bon. Et où finalement, même l'élément de prédication était restreint, réduit à sa plus simple expression. Alors voilà, donc comment se pratiquer l'Église primitive. Alors on pourrait dire, mais pourquoi ne faisons pas de cette manière-là aujourd'hui ? Bien, peut-être justement parce qu'il y a 2000 ans d'une autre pratique derrière nous, n'est-ce pas ? Il est difficile de revenir dans une chose qui n'est peut-être pas quand même essentielle, mais il est bon de le savoir, et il est bon de s'en rapprocher, n'est-ce pas ? Se rapprocher de cette pratique autant que faire se peut, sans bouleverser, n'est-ce pas, des us et coutumes qui pourraient faire en sorte que, si vous voulez, les relations avec les autres églises en deviennent encore plus difficiles. Voilà, en gros, si vous voulez, comment on peut dire les choses. Alors, dans quel lieu se rassemblaient les communautés ? Il est clair que les lieux normaux étaient de deux types. Le temple, il nous est dit des premiers disciples qu'ils étaient assidus au temple, et puis en dehors de Jérusalem, dans les synagogues. Jésus lui-même avait prêché dans les synagogues. C'était donc le lieu normal, n'est-ce pas, de la présence des premiers chrétiens, c'est dans la synagogue. Bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles aussi il était nécessaire alors de distinguer la prédication publique et puis la fraction du pain, car il n'était évidemment pas question de rompre le pain dans les synagogues. Et il nous est dit dans le livre des Actes, il rompait le pain dans les maisons privées. Alors, maison privée, ça ne veut pas dire une cuisine de 2 mètres sur 4. Hein. Maison privée, c'était plutôt des maisons des membres de la communauté qui étaient riches et qui avaient des grandes maisons. Certains avaient de très grandes maisons. Le lieu de culte de la communauté de Jérusalem, nous l'avons dit tout à l'heure, était la fameuse chambre haute, qui n'était pas seulement la chambre haute d'ailleurs, qui avait servi de local pour que Jésus célèbre la dernière Pâque avec ses disciples, qui était ensuite le lieu où les apôtres étaient rassemblés le jour de la résurrection, quand Jésus ressuscité est apparu au milieu d'eux, et ensuite, au moment de la Pentecôte, ils étaient 120. Ce n'était pas quand même un local, comme je disais tout à l'heure, de 2 mètres sur 4. Pour mettre 120 personnes, c'est déjà un local d'une certaine importance. Hein. Et aujourd'hui, bon, la chambre haute... elle est à peu près dans les dimensions qu'elle était à l'époque de Jésus, peut-être un petit peu plus grande. C'est vrai qu'on peut très bien envisager que 120 personnes puissent y tenir. Bon. Il y avait un lieu de culte, nous lisons ça dans le livre des Actes, dans la maison de la mère de Marc. Tellement que l'on y priait pour la libération de Pierre, quand Pierre était en prison. Donc, des personnes aisées ouvraient leur maison, mettaient à la disposition de leurs frères et sœurs, des locaux, des vastes locaux qu'ils avaient dans une vaste demeure, un peu comme cela se passait pendant le communisme, n'est-ce pas, sous le communisme dans les pays de l'Est, où des frères qui avaient des moyens, n'est-ce pas, allaient jusqu'à d'ailleurs construire des locaux dans leur propre maison ou dans leur jardin, n'est-ce pas, pour que s'y rassemble la communauté, hein, des lieux de culte en quelque sorte privés. Par la suite, n'est-ce pas, nous voyons que les premiers chrétiens ont eu leur synagogue. D'ailleurs, nous lisons ça dans l'évangile de Jacques, dans l'épître de Jacques, où Jacques déclare ceci, « S'il vient dans votre synagogue, dit-il, hein, un pauvre homme ou, qui s'asseye, n'est-ce pas, et que vous lui dites, mon cher, va, chauffe-toi, rassasie-toi, et puis que vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire, bon, etc. Vous connaissez le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Jacques s'adresse à ces chrétiens en disant « s'il vient dans votre synagogue », ce qui est d'ailleurs rarement traduit de cette manière-là dans la plupart de nos versions, par pur antisémitisme. Mais les premiers chrétiens, quand ils ont eu des lieux de culte à eux, d'abord ces lieux de culte étaient construits sur le modèle des synagogues juives, en tout point. On en a retrouvé, par exemple à Capernaum. À Jérusalem, je disais tout à l'heure, la fameuse chambre haute, ou plus, ce qui était sous la chambre haute, qui était le plus ancien lieu de culte judéo-chrétien connu à ce jour. À Nazareth aussi, il y avait, semble-t-il, une église-synagogue. Ça ne différent rien d'une synagogue normale, si ce n'est qu'en général, on sait que c'est une église-synagogue, un lieu de culte judéo-chrétien, tout simplement parce qu'il y a des, il y a des inscriptions à la gloire de Jésus. Par exemple, Jésus est Seigneur, ou des choses comme ça, ou bien des symboles judéo-chrétiens, le poisson, ou bien la rosette qui représentait la vie éternelle. Bien, la vie éternelle qui était en Jésus. Donc, si vous voulez, en cela, ils avaient repris exactement le modèle juif. Et ils appelaient ça les synagogues. Pourquoi ? Parce que synagogue, ça veut dire lieu de rassemblement, tout simplement. Bet Knesset, en hébreu, la maison du rassemblement. La maison où l'on se rassemble. Et ce n'est que après la paganisation de l'Église, ça veut dire quand la majorité est devenue une majorité païenne, grecque, que les lieux de culte chrétiens ont été construits non plus sur le modèle des synagogues, mais sur le modèle des basiliques. La basilique, c'était un lieu de rassemblement païen, un lieu de rassemblement romain. En général, pour les affaires politiques, les citoyens se rassemblaient, n'est-ce pas, dans la basilique pour discuter des affaires de la cité, essentiellement. Rien de religieux. Mais quand on a voulu se séparer de la synagogue, on a construit, n'est-ce pas, les lieux de culte chrétiens sur le modèle de la basilique, et on les a appelés des basiliques, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La basilique était un bâtiment rectangulaire. Ou à l'inverse justement de ce qui se passe dans la synagogue, il y avait un autel dans le fond, déjà c'était le début de la sacramentalisation. C'était le moment aussi où les deux parties du culte étaient rassemblées en une, comme j'expliquais tout à l'heure, et où on était assis en rang d'oignon, comme dans les églises aujourd'hui. Si vous voulez, le modèle de l'église aujourd'hui, du lieu de culte aujourd'hui, catholique, protestant, évangélique, est hérité de la basilique. Et finalement, les synagogues ashkénazes, c'est-à-dire des juifs occidentaux, a repris aussi jusqu'à aujourd'hui le modèle de la basilique. Finalement, il n'y a que les orientaux qui ont gardé le modèle de la synagogue primitive, quoi. Bon, je n'en tire pas de conclusion, hein. Je note le fait simplement au passage, hein, pour expliquer ce qu'était le culte de l'Église primitive. Alors, dans ces lieux qui étaient des lieux de rassemblement, les maisons de rassemblement, synagogues, nous avons vu tout à l'heure. Finalement, le mot synagogue, maison de rassemblement, bon, pour nous, ça n'aurait aucun intérêt d'employer ce mot, parce que synagogue, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Bien au contraire, ça ferait une confusion avec le judaïsme. Mais dans le langage d'époque, aussi bien en grec qu'en hébreu, n'est-ce pas, c'était très parlant. La maison du rassemblement. L'endroit du rassemblement. Ça veut dire que les croyants viennent de leur diaspora et ils se rassemblent pour se rappeler ce qui les maintient ensemble en tant qu'Église. Hein? Et donc de cette diaspora, de cette dispersion dans laquelle ils sont, eh bien, ils viennent s'unir dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'adoration du Seigneur. Et alors, il y a là, n'est-ce pas, si vous voulez, toute une dimension de louange, de culte, d'adoration au sens profond du terme. Et c'est là, si vous voulez, que les églises évangéliques ont failli. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, comme souvent dans tout le problème de l'ecclésiologie, les églises évangéliques ont retrouvé des choses essentielles. Il est certain que les églises évangéliques sont celles qui sont les plus proches du modèle biblique. Et notamment parce qu'elles ont la dimension de conversion, parce qu'elles ont toute une dimension de simplicité, de dénuement, disons de pauvreté, qui était certainement beaucoup plus proche de l'Église primitive que ne le sont les grandes églises catholiques, orthodoxes, cathédrales magnifiques, ornées d'or et d'argent avec des liturgies pompeuses. Ça, ça fait aucun doute. Mais, si vous voulez, les églises évangéliques, par réaction, et puis parce qu'elles ont voulu retrouver un essentiel qui était perdu, ont parfois négligé un certain nombre d'aspects que les autres églises historiques ont peut-être plus gardé jusqu'à un certain point. Et notamment, n'est-ce pas, cette dimension de culte au sens profond du terme. C'est-à-dire à la fois de détente, on vient, on oublie ses soucis, on oublie ses... c'est un moment de paix, c'est pas de joie, de simplicité, de gratuité, hein, et où, avec une grande profondeur. C'est là que, si vous voulez, la vie profonde de la communauté s'exprime. Et le fait que, précisément, c'était une cérémonie qui se faisait à huis clos dans l'Église primitive, permettait justement de donner toute sa mesure à toute cette profondeur, dans laquelle justement il y avait cette intervention du Saint-Esprit, des charismes. Peut-être aussi justement, fermait-on les portes pour que ne vienne, comme disait l'apôtre Paul, aucun homme du peuple, aucun incroyant qui puisse être choqué par les manifestations charismatiques qu'il y avait au milieu d'elles. Et peut-être que justement, un des problèmes des églises pentecôtistes aussi vient de là. Ah, c'est qu'on n'a pas suffisamment été attentif à cet aspect des choses. Alors donc, si vous voulez, cette dimension de profondeur, une grande profondeur. Alors que, bien souvent, n'est-ce pas, les églises évangéliques ont tendance, en caricaturant un peu, mais c'est tout de même une tendance des églises évangéliques, à être essentiellement des entreprises d'évangélisation. Et il arrive parfois que le message de l'Évangile, alors que nous disons, nous, évangéliques, et notamment évangéliques de tradition pentecostale, ou plutôt d'expérience pentecostale que de tradition, parce que si c'est qu'une tradition, c'est grave, mais d'expérience pentecostale, si vous voulez, on oublie, alors qu'on dit on a la plénitude de l'Évangile, on a le plein Évangile, pardon, c'est l'expression que je cherchais, le plein Évangile, nous prêchons le plein Évangile. C'est bien prétentieux. Parce que parfois, le plein Évangile, entre guillemets, ça se borne à l'annonce du salut et du baptême dans le Saint-Esprit et des dons spirituels, point. Et finalement, 52 semaines par an, c'est toujours le message du salut, avec les miracles, et puis voilà. Alors ça donne quand même une vie spirituelle très superficielle. Alors bien entendu, n'allons pas croire que dans les églises historiques c'est beaucoup mieux, parce qu'il n'y a même pas ça. Il n'y a plus qu'une vague liturgie traditionnaliste, ou bien dans les églises réformées historiques et luthériennes et autres, n'est-ce pas, une espèce de fratras philosophico-théologico, politiques et sociaux, etc., enfin, qui n'a plus rien à voir avec l'Évangile. Mais ce n'est pas parce que dans ces églises historiques, la substance même de l'Évangile a disparu, qu'il faut que nous pensions que pour autant nous avons le plein Évangile. Le plein Évangile, comme disait Danalji, pour nager dans l'océan de la connaissance de Dieu, il faut avoir de l'eau un peu plus haut qu'aux chevilles. Et je crois que bien souvent, dans les églises évangéliques, on est dans l'eau, et ça c'est une chose excellente. On est quand même dans l'eau jusqu'aux chevilles. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Alors justement, toute une partie du culte de l'Église, c'est cette profondeur de l'adoration, c'est cette profondeur de la réflexion, cette profondeur de, si vous voulez, de la recherche de Dieu dans toutes les dimensions, de prière, d'une prière qui soit une prière ardente, zélée, pas une prière, si vous voulez, traditionnelle, où, n'est-ce pas, on répète des formules creuses, tout en prétendant d'ailleurs que ce ne sont pas des formules liturgiques, mais finalement elles le deviennent. Vous avez des gens, n'est-ce pas, quand ils ouvrent la bouche dans les églises évangéliques, on sait ce qu'ils vont dire et on sait exactement où ils vont finir. Ils ont toujours les mêmes formules, n'est-ce pas, qui répètent inlassablement, sans même s'en rendre compte, d'ailleurs, parfois, dimanche après dimanche. Parce que la vie est partie. C'est comme ça quand la vie est partie. Et si vous voulez, c'est vrai quand dans une église liturgique, il n'y a plus de vie, ce sont des formules creuses. C'est vrai quand dans une église évangélique, il n'y a plus de vie, il y a aussi des formules creuses qui reviennent. Alors voyez-vous, la chose importante, c'est la vie. C'est la vie, c'est-à-dire, si vous voulez, une dimension, n'est-ce pas, d'approfondissement permanent. Et le culte de l'Église devrait être vraiment cette recherche de choses profondes, toujours plus profondes, hein, comme quand on creusait les puits d'Abraham, en fin de compte, ou d'Isaac plus exactement. Hein, ce que l'apôtre Paul exprime dans l'épître aux Éphésiens quand il dit le but de l'Église, c'est de faire croître, c'est l'édification de l'Église, faire croître le corps tout entier à la stature de la mesure, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ou encore la sanctification, n'est-ce pas, de plus en plus grande du corps de Christ, de l'Église, l'approfondissement de la communion fraternelle, l'approfondissement de la communion. Et c'est pourquoi c'est une infamie, n'est-ce pas, une abomination blasphématoire que dans certaines églises, parfois, des gens, n'est-ce pas, qui ont des problèmes entre eux prennent la Sainte-Cène sans se regarder. Je me souviens de cet épisode qui m'a été rappelé il y a quelque temps, dans une certaine église que je ne nommerai pas, où il y avait des grosses discussions théologiques, n'est-ce pas, sur la manière de prendre la Sainte-Cène. Faut-il prendre la Sainte-Cène dans une seule coupe ou dans des petites coupes ? Ah, ça, c'est un problème théologique grave dans beaucoup d'églises. Alors, on était divisés dans cette église-là. Il y avait les uns qui disaient faut la grande coupe, et puis les autres, non, faut les petites coupes. Alors, si on servait la Sainte-Cène dans les grandes coupes, eh bien, il y avait toute une partie de l'église, 50% de l'église, qui ne prenait pas la Sainte-Cène. Et si on servait dans les petites coupes, c'était l'autre moitié de l'église qui ne prenait pas la Sainte-Cène. Alors, en bon Salomon, n'est-ce pas, le pasteur de l'église avait trouvé la réponse. Il avait mis, n'est-ce pas, sur la table de Sainte-Cène, il y avait des grandes coupes pour ceux qui voulaient la grande coupe, et puis il y avait des petites coupes pour ceux qui voulaient la petite coupe. Alors, c'était absolument inénarrable à voir. Vous aviez les partisans de la grande coupe qui ostensiblement prenaient la grande coupe, toisant les autres, n'est-ce pas, qui prenaient les petites coupes du regard tout en buvant, n'est-ce pas, et les autres qui prenaient leur petite coupe ostensiblement regardant les autres, n'est-ce pas, ces mécréants, n'est-ce pas, ces hérétiques, n'est-ce pas, qui buvaient dans la grande coupe. Caricature. Le culte, c'est l'approfondissement de la communion fraternelle. Si avant de d'offrir ton offrande sur l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi avec lui, puis viens ensuite présenter ton offrande. C'est quelque chose de vivant, la vie, l'Église, le culte de l'Église. C'est pas une tradition, c'est pas des rites, c'est pas des gestes, c'est quelque chose qu'on vit en esprit, en vérité. Bon, on pourrait évoquer ensuite, bien sûr, mais le temps est passé, je termine simplement là-dessus, le maintien de la saine doctrine. C'est sûr, c'est sûr. D'où, justement aussi, la raison pour laquelle, dans le culte de l'Église, on a introduit, assez rapidement, c'est-à-dire à partir du IVe siècle, une confession de foi, un credo. Ça veut dire que ne pouvait participer à la Sainte-Cène, ne pouvait être dans la communion de l'Église que ceux qui souscrivaient à ce credo, ceux qui avaient une même foi, une foi saine, une foi orthodoxe, comme on disait, c'est-à-dire conforme à la vérité. Orthodoxe, ça veut dire conforme à la vérité révélée. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que dans l'Église primitive, il y ait eu quelque chose de semblable. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, le but de la charité. Bon, c'est aussi veille à la saine doctrine, écarte ceux qui enseignent des doctrines autres, n'est-ce pas. Et alors, il y a quand même dans l'Écriture un certain nombre de credos primitifs, très primitifs. Par exemple, Paul dira en l'épître aux Corinthiens, Pour nous, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Hein? Certaines formules de ce type-là qui semblent être un résumé de la doctrine, un résumé très succinct de la doctrine. N'est-ce pas? Et par conséquent, le rôle des responsables de l'Église, notamment des anciens, c'est de veiller au maintien de la sainte doctrine, la doctrine juste, conforme à l'Écriture. Et si l'Église est véritablement la colonne et l'appui de la vérité, eh bien, c'est d'abord la vérité selon ce qui est selon la saine doctrine, la pure doctrine, dira l'apôtre Paul justement à Timothée. Bon, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir très brièvement, on pourra continuer.